Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local, la dernière de la semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le vendredi 10 décembre, et on va parler aujourd'hui de la Folle Journée en Région, Folle Journée en Région, festival de musique classique qui a lieu et qui aura lieu là aussi en janvier. La billetterie ouvre demain avec en fil rouge le musicien Schubert, et vous verrez pourquoi ce choix a été fait. On va parler aussi dans cette émission d'art martial ou d'arts martiaux, même d'ailleurs, pour les personnes en situation de handicap, en situation de handicap moteur ou même déficient visuel ou même psychique. Là aussi, on verra comment la discipline peut s'adapter lors d'un stage qui a eu lieu il y a quelques jours à la Baconnière. Et puis on va évidemment, comme tous les vendredis, faire un tour du côté du sport avec le portrait d'une jeune basketteuse pleine de talent et pleine d'avenir aussi, puisqu'elle est encore assez jeune. Ce sera Heather Kuderk qui sera au micro de Steven dans la chronique sport. Et on poursuit évidemment notre feuilleton avec la compagnie de théâtre Les Deux Rives à Château-Gontier, la plus ancienne compagnie de la ville, avec un focus aujourd'hui vraiment sur comment se déroulent les ateliers de théâtre proposés tous les mardis soirs et quels en sont les intérêts. Ça, ce sera plutôt en fin d'émission. Mais on va commencer avec donc cette Folle Journée en Région qui revient pour la deuxième fois à Château-Gontier. Elle était historiquement implantée aussi à Laval et dans d'autres villes de la région. Mais là, ce sera seulement la deuxième édition à Château-Gontier, avec toujours le même objectif, rendre la musique classique accessible à tous, avec des concerts assez courts, donc de 45 minutes, une demi-heure même pour certains, au petit prix, entre 2 et 12 euros. Elle aura lieu cette année du 21 au 23 janvier à Château-Gontier au Théâtre des Ursulines à l'Espace Saint-Fiacre. Et la programmation cette année s'articule autour de Schubert le Voyageur, un choix fait en contre-pied de l'épidémie et des confinements, comme l'explique le créateur de la Folle Journée, René Martin.
Le compositeur idéal, c'est Schubert, parce que toutes les œuvres de Schubert ont été créées que dans des salons ou dans des appartements privés ou dans des tavernes autour de Vienne et entouré d'amis. On peut dire que d'une certaine façon, Schubert, c'était un SDF de la musique. Il n'avait pas de logement fixe. Et alors, c'était quelqu'un de très, très modeste, mais qui avait un talent absolument inouï. Donc, il était vénéré par les poètes, vénéré par les musiciens. Et chose étonnante, d'ailleurs, pendant sa courte vie, puisqu'il va vivre 31 ans, on ne donnera quasiment jamais de concert à Vienne de ses œuvres. Et c'est ses amis, 6 mois avant de mourir, qui ont décidé quand même d'organiser une grande soirée hommage à Schubert. On le surnommait le champignon parce qu'il mesurait 1m56. Alors peut-être que ça le rendait... Il avait peur de se présenter. Alors à cette époque, il y avait Beethoven. Il croisait souvent Beethoven. Il n'a jamais osé aller lui parler. Alors qu'à la mort de Beethoven, un ami lui présente quelques heures avant de mourir une partition de Schubert. Il se dit, mais c'est une inspiration divine, vous voyez. Et la musique de Schubert va mettre beaucoup de temps à être écoutée. Et c'est qu'au début du XXe siècle qu'on va commencer à jouer ses sonates. C'est ce qui est un miracle de la musique, c'est que les œuvres de Schubert sont très, très, très connues. Je vais vous citer le plus bel exemple, l'Ave Maria. L'Ave Maria, c'est une pièce que je pense que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu dans des moments tristes, par exemple à des enterrements, on peut chanter l'Ave Maria de Schubert, dans des mariages aussi. La truite de Schubert, c'est un mouvement, tous les collégiens dans toutes les écoles de France ont dû entendre leur professeur présenter la truite de Schubert. Il y a un trio opuscent que vous pourrez entendre à Château-Gontier qui est extraordinaire et qui a été très très utilisé au cinéma dans le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Donc c'est une musique qui, je dirais, appartient au patrimoine mondial et que tout le monde connaît, mais souvent on ne sait pas mettre le nom en disant « tiens, ça c'est Schubert ». C'est l'objet de la Folle Journée, c'est de montrer qu'elle est accessible à tous. Et je conseille des familles qui nous écoutent de venir avec leurs enfants écouter le quatuor de saxophone, par exemple le quatuor Zahir, qui vont jouer des mélodies de Schubert, mais ça va être extraordinaire. Et peut-être que ça va donner la vocation à votre petit garçon, petite fille, de jouer du saxophone.
Et oui, peut-être de nouvelles vocations avec cette folle journée en région. À retrouver aussi parmi les concerts, celui du trompettiste Romain Leleu qui sera en sextette en concert, le violoniste Thomas Lefort ou encore le Paul Lai Trio, et oui, du jazz aussi dans cette programmation. Ouverture de la billetterie donc demain à l'office de tourisme de Château-Gontier et sur le marché de Noël qui se tient tout le week-end en centre-ville. On va parler justement de ce stage de para-art martial ou comment adapter les arts martiaux aux personnes en situation de handicap juste après avoir écouté Arctic Monkeys avec One Point Perspective.
Dancing in my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood.
C'était les Arctic Monkeys dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute, évidemment, de l'autre radio. Et on va parler de ce stage de para-art martial. Parce que oui, même les personnes en situation de handicap peuvent faire des arts martiaux, même si ça ne paraît pas forcément évident. Ce stage qui a eu lieu le week-end dernier à la Baconnière. Il était organisé par le comité départemental de karaté et discipline associée de la Mayenne pour justement étendre aussi cette pratique et montrer que ces sports sont accessibles aussi pour tous. Et il a rassemblé 6 sportifs qui étaient déjà pratiquants en club ou pas d'ailleurs, et leurs familles. Et l'objectif, c'était bien sûr de promouvoir aussi cette adaptation dans les clubs par des jeux, entre autres, vous allez l'entendre, ou d'autres adaptations possibles. Reportage sur place avec les organisateurs, bien sûr, et aussi les participants, très heureux de participer à ce stage.
Alors, Jonathan Bourré, je suis directeur technique du département au sein du comité départemental de karaté et discipline associée de la Mayenne. Alors, on assiste à un stage paramartial. Donc, ce stage a été organisé à l'occasion de la Journée internationale du droit des personnes en situation de handicap. Et donc, le comité départemental avait souhaité réorganiser, comme chaque année, depuis maintenant, entre 6 et 7 ans, ce stage paramartial, afin de sensibiliser à la pratique des arts martiaux pour les personnes en situation de handicap.
À qui ça s'adresse, finalement ?
Alors, ce stage s'adresse à tout le monde. Donc, au premier abord, effectivement, aux personnes en situation de handicap, pratiquantes déjà de karaté ou discipline associée ou non, mais également aussi aux personnes valides et aux entraîneurs qui souhaitaient acquérir des techniques pour accueillir ce genre de public. Certains pratiquent effectivement dans les clubs de la Mayenne, mais également aussi des pratiquants hors Mayenne, puisqu'on a des pratiquants de la Manche aujourd'hui. Et on a aussi des jeunes qui ne pratiquent pas du tout les arts martiaux.
Comment est-ce qu'on peut adapter justement le karaté ou des arts martiaux ? On se dit, pour le coup, il y a beaucoup de contacts, en tout cas l'investissement du corps est très important. Comment est-ce qu'on adapte ça quand parfois on a eu des accidents ou en tout cas qu'on n'a plus la mobilité qu'on pouvait avoir avant?
L'avantage qu'on a, c'est que les arts martiaux sont très riches et donc que ce soit le karaté, les arts martiaux vietnamiens, on a aussi deux grandes parties. On a une partie effectivement de combat, donc en pied-point, qui est donc possible quand on est en situation de handicap, puisque les personnes qui sont déficientes sensorielles ou déficientes mentales, du coup, peuvent toujours combattre en pied-point. Les personnes qui sont en fauteuil, on va adapter le combat avec que des techniques de membres supérieurs, que des coups de poing. Et puis on a aussi la grande partie de techniques, du coup, avec des katas, des enchaînements du coup individuels. Donc pareil, qu'on peut adapter avec les personnes qui sont en situation de handicap, qui vont pouvoir travailler essentiellement les mains et les déplacements en fauteuil. Et puis les personnes qui sont, elles, debout, qui ont l'usage de leurs quatre membres, pareil, ça va être adapté. On ne va pas avoir les mêmes notations, on ne va pas avoir les mêmes techniques et on va peut-être travailler plus en simplicité. Et puis après, avec aussi tout le matériel sensoriel, travailler avec les couleurs, travailler avec le bruit, travailler avec tout ça.
Est-ce que, là on voit, il y en a qui déjà pratiquent dans des clubs en Mayenne, j'imagine que c'est encore très minoritaire et que l'objectif, c'est que ça puisse se répandre, en tout cas.
Oui, effectivement, la pratique des personnes en situation de handicap en Mayenne reste minoritaire. Le comité souhaite vraiment l'ouverture à ce public, avec notamment les catégories de para-championnats. On a les championnats para de la Mayenne qui ont lieu tous les ans, donc on n'a pas beaucoup de participants, mais on a toujours ces ouvertures de catégories et qui leur permettent effectivement d'aller faire de la compétition, même s'ils sont 2, 3, 4 dans la catégorie. C'est le but aussi du comité, c'est de promouvoir cette discipline et puis c'est surtout permettre l'accès vraiment à tout le monde.
Se mettre au sport ou se remettre au sport quand on est en situation de handicap, c'est pas évident. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi dire que le karaté et d'autres arts martiaux, c'est possible.
Exactement. Déjà, ça fait du bien au corps, effectivement, quel que soit le handicap. Et on a l'exemple aujourd'hui avec un pratiquant qui du coup, grâce au sport, a pu développer de grandes choses. Il a été alité, il a retrouvé la parole, il a retrouvé l'usage de ses membres supérieurs. Et donc, du coup, effectivement, il a retrouvé une pratique sportive qui lui fait bien au corps. Et puis, ça fait aussi beaucoup de bien au mental, puisqu'effectivement on travaille l'inclusion et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir pratiquer avec des personnes valides, on se retrouve dans une normalité et puis le grand avantage qu'on a dans les arts martiaux, c'est qu'on pratique en kimono et notre tenue, on est tous égaux et tous pareils sur un tapis et ça c'est quand même chouette. Oui, on est tous pareils. On a toujours au sein du comité, on a des passages de grade aussi adaptés. Donc les personnes en situation de handicap peuvent passer leur grade comme tout le monde et on peut évoluer comme un pratiquant valide quand on est en situation de handicap. Si, il faut des formations, effectivement des diplômes. En Mayenne, on est sur le karaté et discipline associée, encore une fois, on n'est pas très bien lotis. Océane, qui anime le stage aujourd'hui, du coup, donc est enseignante en sport adapté. Elle pratique effectivement dans un club au sein de la Mayenne, mais elle travaille sur Rennes. Donc du coup, c'est vrai que les grandes villes qui ont des centres de rééducation, c'est ici où on va trouver le maximum d'enseignants en sport adapté. Et donc nous, on les fait intervenir au sein du comité.
si nos auditeurs entendent et se disent bah pourquoi pas tester, c'est vrai que j'avais pas pensé au karaté, aux arts martiaux, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire ici en Mayenne?
Alors déjà se rapprocher de leur club au plus près de chez eux, que ça soit les karatés, les arts martiaux vietnamiens, le Krav Maga qui font partie de nos disciplines au sein du comité, se rapprocher de leur club et puis si jamais voilà le club ne peut pas accueillir ou ne peut pas voilà ne sait pas faire on va dire pour adapter leur pratique, se rapprocher du comité départemental, voilà, en allant sur internet et voilà, et en nous téléphonant, et on saura les aiguiller vers des clubs qui peuvent accueillir et qui peuvent adapter leur pratique à ces personnes.
Bonjour, je m'appelle Éric Levallois et je viens de Normandie. Ça fait 3 ans que j'ai repris les arts martiaux. Avant d'être en situation de handicap, j'étais quelqu'un déjà qui pratiquait le Viet Vodao. Disons que là, ça fait plus de 13 ans que je suis pas revenu pratiquer, quoi. Je recommence tout à zéro parce que les repères ne sont plus du tout les mêmes. Comme je n'utilise très peu mes jambes, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas me dégager de quelqu'un qui m'agresse. Donc je suis obligé d'être quasiment tout le temps en attaque. Je m'aide de mon fauteuil. La plupart des gens ont peur de se faire écraser les pieds. Donc j'en profite d'avancer vers la personne au niveau de ses jambes pour soit lui donner un coup de fauteuil dans les jambes pour le faire descendre et pour pouvoir lui atteindre le visage. Ou en tout cas, ben, j'essaye de faire baisser sa garde et trouver une ouverture qui va se trouver pour moi au niveau des cuisses ou du ventre. C'est là que j'ai le plus fort pour faire descendre à chaque fois, porter un coup important à la personne pour le faire descendre. Et dès qu'elle descend, je peux toucher la tête, quoi. Disons que j'étais quelqu'un qui était alité et c'est grâce au sport que je peux reconduire aujourd'hui et tout ça. J'ai commencé par de l'équithérapie, l'équitation pour personnes en situation de handicap. J'ai voulu gérer mon cheval, donc ça a demandé des tas de choses. Et mon bassin qui ne fonctionnait plus du tout, grâce à l'équitation, j'ai réussi à faire rebouger mon bassin. Et grâce aussi à l'équitation, je peux reconduire aujourd'hui parce que j'ai fait du bajutsu, qui est un art martial japonais, c'est du tir à l'arc à cheval, qui vous permet de dire à un cheval d'aller dans une direction et tirer dans un autre, ce qui a permis à mon cerveau de pouvoir gérer 2 choses à la fois et de pouvoir apprendre à conduire. C'est 10 ans de travail, mais aujourd'hui je suis autonome. Aujourd'hui je vais où je veux, quand je veux. J'ai besoin de personne, quoi. Les médecins me voyaient rester alité et ne pas sortir de mon lit. Et même au niveau kiné, tout ça, mes muscles étaient tellement atrophiés et tout ça, et raides, que ça ne pouvait pas fonctionner, quoi. Bah déjà, les arts martiaux que j'ai pratiqués avant m'ont apporté le mental de vouloir me battre, hein, et de pas laisser les choses se faire, et puis de prendre conscience aussi que médicalement on m'avait dit une chose, et après on sait que le mental fait beaucoup pour la guérison. Donc j'ai fait jouer mon mental et maintenant j'ai appris aussi à me connaître davantage. Donc je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire. Il y a aussi des choses où j'arrive à une rupture et il faut pas que je dépasse cette rupture parce que là je me mets en danger moi-même. J'ai une ligne rouge et il faut pas que je la dépasse, quoi. Ça peut être joué au niveau du souffle parce que ma maladie attaque aussi mes poumons, mon cœur et tout ça. Donc il y a des limites qu'il faut pas que je dépasse et c'est apprendre à se connaître soi-même. Il y a des premiers symptômes, faut les écouter et faut dire bah stop, moi j'arrête là et puis j'en prendrai une autre fois quand j'irai mieux et voilà. Mais je suis beaucoup pour le sport handicap et surtout le sport santé parce que c'est aussi aider les personnes en situation de handicap rien que pour s'habiller, mais c'est aussi aider les dents parce que quand les dents ne peuvent pas mettre les vêtements à une personne en situation de handicap, on s'oppose, on se met en colère et là le corps se raidit et on ne fait plus rien de bon. Donc voilà, alors que le sport permet de récupérer une souplesse et de prendre plaisir à se faire habiller ou voilà sans contradiction, quoi. Je suis ancré surtout dans le monde associatif, donc je suis très ancré dans le monde associatif. Et puis, je sais pas comment on peut dire, mais j'ai réussi maintenant, en tant que personne en situation de handicap, à me reconstruire une vie qui est plus du tout la même. J'y prends beaucoup plus plaisir aujourd'hui qu'avant, et j'ai appris à aider les gens. Pour moi, c'est quand j'ai aidé une personne dans une journée, c'est le plus grand plaisir que j'ai, avoir un sourire en repartant et voilà, je suis récompensé. Et la preuve que l'argent ne fait pas tout non plus, quoi. Voilà. Donc c'est d'autres richesses, c'est d'autres choses. C'est une vie complètement différente, mais c'est une vie qui vaut être le coup d'être vécue, quoi. Alors moi, j'en fais en club, j'en fais à peu près 3 heures par semaine. Quand il y a les beaux jours, je vais rouler avec mon fauteuil aussi. Parce que ma maladie m'a fait que j'ai beaucoup perdu, hein. J'ai beaucoup perdu, et justement je veux pas en perdre plus. Donc c'est aussi essayer de se maintenir en forme. Mais je sais que, bon, moi, mon handicap me le permet. Il y a des handicaps que c'est pas possible. Mais je veux dire, voilà, je travaille aussi avec handisport. Je fais pas mal de journées handisport, handivalide, des choses comme ça. Et je m'aperçois que même quelqu'un, pour éviter de perdre du souffle, rien que de pratiquer la sarbacane, permet de récupérer du souffle. Ça veut dire que même si on n'a pas ses jambes, on n'a pas ses bras, du moment qu'on a encore un peu système respiratoire, parce que j'ai vu des gens avec des grosses difficultés respiratoires pratiquer de la sarbacane et récupérer justement du souffle grâce à ça, quoi. Parce que maintenant, il y a des potences sur lesquelles on peut mettre la sarbacane dessus. On n'a pas besoin de la tenir, il faut juste la diriger un peu. Et, voilà. Et puis en sport, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour permettre aux personnes en situation comme le tir à l'arc, il y a des potences pour tirer à l'arc. Voilà, je connais des gens qui sont amputés qui tirent à l'arc. Ouais, il y a des associations comme le sport adapté ou handisport qui permettent ces choses-là, quoi. Puis après, bah, c'est pareil, il faut trouver un club qui veut bien s'investir dans le monde du handicap. Avant de pratiquer le Viet Vodao, j'ai voulu refaire du sport et après l'équitation, j'ai retrouvé un club qui m'a permis de faire du hockey fauteuil. C'est encore un autre, voilà. C'est encore un autre sport et là, ça a été très très compliqué pour avoir les aides, pour piper. Aujourd'hui, le club est fermé parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites, quoi. Parce qu'on n'a pas fonctionné dans le bon sens, on n'a pas trouvé les personnes non plus, on n'a pas aidé spécialement au niveau des bâtiments, au niveau de l'accessibilité, des mises aux normes et tout ça. Donc c'est devenu compliqué, quoi. Les transports et tout ça.
Allez, la tape est rouge. Les deux doivent se défendre et ne pas se toucher.
Je m'appelle Océane, j'ai 21 ans. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Je sors de ma licence STAPS, donc mention activité physique adaptée et santé. J'ai commencé à travailler à la rentrée, là, donc c'est tout frais. Alors, c'est le premier stage de ce genre que j'organise moi personnellement. J'ai déjà participé à des stages dans cette discipline parce que je pratique depuis déjà plusieurs années. Donc, pour moi personnellement, j'ai déjà participé pour dire que bah, c'est possible de le faire. Que le sport, bah, c'est pas que pour les personnes valides, que tout le monde peut faire du sport, peut faire n'importe quel sport, et même des arts martiaux, où on se dit, les arts martiaux, faut être super en forme, super condition physique, mais oui, mais pas que. C'est... On peut rendre les choses accessibles à tout le monde, et c'est ça qui est chouette. Ça nécessite d'avoir un peu de recul sur la pratique sportive, aussi sur la pratique professionnelle, j'ai envie de dire, parce que le fait de voir plein d'autres cas à côté, ça aide aussi à trouver des alternatives, plein d'autres solutions en fait. Parce que quand on est devant et que la personne nous dit bah, « je peux pas faire ça bah, », il faut pouvoir lui proposer une solution. Et ça, ça vient avec l'expérience parce qu'à la fac, on nous apprend pas ça. On nous dit « vous préparez votre séance et dans le meilleur des cas, ça se passe bien ». Donc quand on est devant les personnes et qu'elles nous disent « non, ça je ne peux pas faire », bah, il faut pouvoir proposer une solution et garder quand même en qualité. Donc... Et ben, ça va passer, par exemple, pour une personne qui aurait une douleur à la hanche sur des exercices assis. Sur une personne en fauteuil, ça va être beaucoup de travail du haut du corps, mais on va aussi faire du travail d'armes là, dans la suite de la séance, qui va aussi être accessible en fauteuil, sur ses deux pieds, sur une jambe, ça marche aussi. Et après, au-delà de ça, ça va être pour des déficiences plutôt auditives, on va partir sur du visuel, beaucoup de travail de couleurs. Beaucoup de démonstrations aussi, parce qu'il faut pouvoir visualiser les choses. Quand on n'a jamais fait, c'est très difficile de visualiser. Et même quand on a déjà fait, des fois, c'est difficile. Donc non, ça va partir sur beaucoup de démonstrations, sur s'il y a un sens qui est déficient, on va utiliser tous les autres pour essayer de compenser, même si ça ne compensera jamais, mais on va quand même jouer là-dessus. Et puis, on va aller chercher beaucoup du travail d'équilibre, tout ça. Renforcement musculaire très profond et puis on va faire passer beaucoup de choses par le jeu. Et puis bon, comme aujourd'hui on va faire beaucoup de choses différentes, ça va être peut-être de l'initiation pour certains parce que c'est pas, on n'a pas tous les mêmes disciplines. Chacun va pouvoir s'y retrouver à un moment, même si c'était pas son truc, il aurait jamais cru que c'était possible et mais on finit tous par s'y retrouver finalement. Notre discipline d'origine, Jonathan et moi, c'est le Bovinam. Là on a des pratiquants de karaté. On a aussi des pratiquants de Viet Vodao traditionnel, donc c'est encore différent. Donc nous, forcément, on va faire quelque chose qui se rapproche de notre discipline. À Jonathan et moi, c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc c'est celle qu'on a le plus de facilité à retransmettre. Et après, on n'est jamais au refus d'ouverture sur d'autres disciplines. On nous dit, nous, on fait comme ça, etc. Mais nous, oui, on va chercher à retranscrire quelque chose qui est très proche de ce que nous, on apprend, de ce qu'on peut faire apprendre, de ce qu'on veut faire apprendre. Moi, j'ai pu remarquer en tout cas que ça pouvait être plutôt des difficultés de compréhension. Où là, pour le coup, on va plutôt intervenir sur voilà, de la démonstration, parce que ça va être visuel. On va partir aussi sur de la répétition. Donc là, où on va réexpliquer lentement, plusieurs fois s'il faut. Ce qui va être de l'échauffement, une personne en fauteuil qui ne peut pas forcément lever les genoux, bah, ça va être plutôt une flexion de buste, où là, on va quand même avoir la flexion de hanche, sans forcément avoir à lever le genou. Voilà, partir sur du jeu, beaucoup de jeu aussi, parce que comme ça, on ne sent pas des blocages sur des vrais apprentissages et où la personne peut être frustrée. Sur un jeu, il y a plus la notion d'amusement. Et du coup, la personne est moins frustrée d'avoir un petit blocage à un endroit. Elle peut faire autrement parce qu'il y a moins de cadre, on va dire. Ça peut aussi être une prise de confiance pour certains. Le sport, on sous-estime l'impact du sport, je pense. Au niveau prise de confiance en soi, c'est très important.
Très important, et si vous aussi vous voulez tester et être intéressé par le para-art martial, vous pouvez contacter le comité départemental de karaté et discipline associée au 06 81 53 62 32. On fait une pause en musique avec Polo Hanpan, Cœur croisé, et on revient juste après pour la chronique sport.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid, on n'a pas décoché. Et j'ai continué à marcher.
Pan, cœur croisé dans la JT du local sur l'autre radio. Et on va passer à la chronique sport, comme tous les vendredis proposée par Steven, avec aujourd'hui le parcours d'une jeune basketteuse très prometteuse, issue du club du Sud Mayenne Basket. Elle a notamment joué en U15 France. Je parle bien sûr d'Heather Kuderk, que vous allez entendre tout de suite.
Heather Couderc, jeune relève du basket féminin issu du club de Sud Main Basket. Alors merci Heather de nous consacrer quelques minutes de ton temps. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours de joueuse?
Déjà bonjour. Le basket à l'âge de 9 ans, donc complètement hasard grâce à une journée découverte organisée par SMB. Donc j'ai d'abord commencé le basket au club. Et ensuite j'ai intégré l'équipe des U13 régions durant 2 années. Et donc j'ai passé 4 ans à SMB, donc de mes 9 ans à mes 13 ans. Et durant mes années à SMB, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe départementale de la Mayenne. Donc j'ai participé à toutes sortes de sélections, tournois, comme ETIC. Et durant une sélection à Laval avec toute la région, j'ai été repérée pour le pôle. Donc ensuite, j'ai intégré le pôle des Pays de la Loire à Nantes. Il me fallait trouver un club où je puisse jouer en U15 France. Et mon choix s'est porté vers Angers, puisque c'était un club assez proche d'ici. Donc j'ai passé mes 2 années au pôle et en parallèle joué en U15 France à Angers. Et durant mes 2 années de pôle, du coup, j'ai aussi fait des sélections régionales, où j'ai pu faire des tournois également. Ensuite, une fois le pôle terminé, je voulais faire partie d'un centre de formation et j'ai décidé de rester à Angers parce que c'est là où j'avais mes repères et que je me sentais bien dans ce club. Donc l'année dernière, je jouais en U18 France. Donc, ça a été une année un peu particulière avec le Covid. On n'a pas pu trop s'entraîner puisqu'on était en centre d'entraînement. Mais cette année, on a eu la chance de passer en centre de formation. Donc si jamais le Covid repartait, on aurait l'occasion de s'entraîner tous les jours. Donc cette année, je joue en U18 France et j'espère avant la fin de l'année d'aller jouer en National 2.
Alors, tu es originaire du Sud Main Basket, tu fais partie un peu de la vitrine du club, les jeunes te connaissent bien et justement tu portes les valeurs du club. Aujourd'hui, tu as eu la chance de passer par le pôle des Pays de Loire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que représente le pôle, ce qu'est le pôle et un peu le rythme de vie au pôle?
Le pôle, c'est une structure où est réunie 15 joueuses de toute la région. Le pôle, il a pour rôle de le développement individuel de la joueuse. On n'est pas une équipe, donc en fait on travaille des fondamentaux pour performer individuellement.
Et tu t'entraînes combien de fois?
On s'entraîne 6 fois avec le pôle, donc 2 jours où on fait entraînement matin et soir, et plus l'entraînement le vendredi soir avec le club. Donc en tout, ça fait 7 entraînements en semaine.
Donc un rythme de vie assez conséquent. Comment as-tu un peu réussi à pallier, on va dire, le scolaire? Parce que je pense que dans une structure semi-pro comme le pôle, les notes comptent et sont peut-être importantes. Comment tu as réussi à gérer un peu le côté école et sport?
Le pôle, il est très coordonné avec le collège où on était. Ils sont tout le temps en lien, donc... Il faut savoir que le scolaire, il est primé sur les entraînements. Donc les notes chutent, ça va être des entraînements supprimés. Donc tous les soirs à l'internat du pôle, on a des heures d'études obligatoires. Et ensuite, faut savoir gérer son temps, les entraînements. Faut être organisé pour pas trop être débordé par les entraînements. Mais en soi, ça se fait plutôt bien. On est très accompagné par les personnes du pôle et du collège si on a besoin.
Alors, grâce à ton parcours, aujourd'hui, tu fais partie du club de l'UFAB d'Angers, un des plus gros clubs féminins du territoire. Alors, tu parlais de quelques ambitions. Donc, ton ambition aujourd'hui pour le futur, quel serait ton rêve ultime, Ligue féminine?
Oui, forcément, c'est un rêve, un projet même. Mais déjà, je me concentre à court terme. Je pense qu'il faut voir... pas trop haut au risque d'être déçu, mais jouer en N2 et puis continuer à m'entraîner, progresser, performer au plus haut niveau, et forcément à long terme intégrer l'équipe de France et jouer en Ligue féminine si possible.
Et donc cette année, l'objectif un peu avec l'équipe?
Cette année, c'est en U18, là on va monter en poule haute, donc en poule haute c'est de gagner le maximum de matchs afin d'aller en Final Four et pourquoi pas remporter le titre de championne de France. Et en N2, c'est de gagner le plus
de matchs possible, garder ce fil conducteur et de continuer à performer comme tu le fais. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour ton club d'origine. Je sais que j'ai pu parler avec certains entraîneurs comme Patrice ou des dirigeants qui te connaissent très bien et qui reconnaissent sans problème ton investissement et ton sérieux qui aujourd'hui te fait réussite puisque tu fais partie quand même de l'élite. Est-ce que tu as un petit mot pour le Sud-Mayenne ?
Bah oui, en effet, déjà je voulais remercier toutes les coéquipières avec qui j'ai pu jouer parce que sans elles, j'aurais pas pu progresser quand je suis arrivée au club. Et puis merci à tout le monde, aux parents, le club très familial.
J'en garde à tes parents aussi qui t'ont permis d'aller jusqu'à cette étape-là. Parce qu'il faut aussi avoir un investissement et un engagement familial.
Oui.
Merci beaucoup, Heather, jeune pépite du basket féminin qui, j'espère, on pourra retrouver plus tard à la télé avec les équipes de France. Merci beaucoup, Heather.
Merci.
Merci, Steven, pour cette chronique. Ça, l'avenir nous le dira si on pourra voir Heather, du coup, sur nos écrans, évidemment. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. On passe à notre feuilleton. Dernier épisode cette semaine avec la Compagnie des Deux Rives, la compagnie de théâtre la plus ancienne de Château-Gontier qui va bientôt fêter ses 38 ans. Et avec aujourd'hui Jérôme Rousselet, metteur en scène et comédien professionnel qui anime les ateliers théâtre pour adultes qui ont lieu tous les mardis soirs et ce depuis 2 ans avec bon an mal an avec la situation sanitaire. En tout cas, cette année, ils ont repris régulièrement et il revient lui sur les débuts du projet.
On m'a sollicité parce que j'étais parti 7 ans en Isère entre 2012 et 2019. Et quand je suis revenu en Mayenne en 2019, l'été 2019, le bureau à l'époque, donc, qui est encore le même à peu près, donc la présidente Pascale Feuillet et puis il y avait aussi André, ils ont eu l'idée de me faire intervenir en tant qu'animateur d'atelier théâtre pour l'atelier adulte. Et puis j'ai accepté parce que j'avais le temps, j'habite à Château-Gontier en plus, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Puis vu que je les connaissais bien, je connais, voilà. Et puis je vais à pied à mon atelier de théâtre, c'est la première fois de ma vie que ça arrive, parce que j'en avais pas mal à animer des ateliers de théâtre, mon humble petite carrière. Et là, aller à l'atelier de théâtre à pied, c'est quand même très appréciable, dans un vrai théâtre en plus, que c'est le théâtre du Rex. Donc on est quand même dans des conditions super, donc avec des adultes motivés, c'est toujours intéressant, quoi. Je suis pas toujours friand d'absolument proposer un spectacle en fin d'année, mais en l'occurrence, quand même, après, en discutant, là, ça s'y prête, parce que présenter un spectacle, c'est quand même le but ultime de la chose, qu'on parle toute l'année de comment se relâcher, être face à un public, comment, et donc faut bien expérimenter cette chose. Donc c'est quand même un passage obligé, et même pour les élèves, d'aller présenter quelque chose devant un public. En l'occurrence, ce sera le 18 juin prochain, si Covid nous laisse tranquille. En tout cas, oui, c'est quand même le but, puisque c'est ça le je vais pas appeler ça la validation, mais en tout cas l'expérience la plus ultime de l'atelier théâtre. Tant qu'on est en recherche, on travaille, mais quand on se trouve devant un public, là, c'est là que tout se cristallise. Il y a un projet de... Donc, moi, en général, sur les ateliers de théâtre, ce que j'essaie de faire, c'est de faire des choses assez courtes. Je ne veux pas trop balancer de texte, parce que j'estime que le texte paralyse souvent les acteurs débutants, et je préfère qu'il y ait peu de texte, mais du jeu, plutôt que de mettre du texte, et voilà. Et donc, je préfère peu de texte, mais au contraire, que ce soit vivant, quoi. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi de parler du cinéma. Et tout le spectacle de cette année, ce sera sur des répliques, des vraies répliques de cinéma que j'ai montées. Voilà. Donc, ce sera un petit exercice de style. Et on a commencé un petit peu à aborder ça avec les gens. Et ils semblent y prendre beaucoup de plaisir. Donc, on s'amuse bien, déjà. L'idée, c'était évidemment qu'il y ait un spectacle en fin d'année. Mais le seul cahier des charges, c'est que les gens reviennent avec un minimum, voilà, quelques bases, etc. Évidemment, j'ai été complètement libre d'organiser mon atelier comme je le souhaitais. C'est bien de travailler, de répéter, etc. Mais après, à un moment donné, il faut essayer de voir qu'est-ce que ça fait de jouer devant un public. C'est quand même ça le truc ultime. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont détester, qui disent « mais non, jamais plus je ne referai ça ». D'autres, au contraire, qui vont dire « mais c'est super, j'ai envie d'y retourner ». Donc c'est quand même, quand on joue devant un public, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est difficile à décrire. Et s'il faut le vivre, ça, si on ne le vit pas, c'est un peu dommage.
Et vous pourrez retrouver ce feuilleton en entier dans Les Agités du mois, diffusé le mardi 28 décembre à 19h. On passe à notre agenda de ce week-end et d'ailleurs des prochains jours. Alors il y avait beaucoup de choses. Évidemment, vous le savez, en cette fin d'année, on va peut-être parler quand même. Bah oui, évidemment, on est à 2 semaines de Noël, donc les marchés de Noël à Laval notamment, ils commencent dès aujourd'hui d'ailleurs et se poursuivent jusqu'à dimanche. Ce sera aussi, il aura aussi lieu le week-end prochain du 17 au 19 décembre. Vous avez certainement déjà vu, si vous êtes à Laval, les petits chalets installés place du 11 novembre et cours Clémenceau. Attention, pour rentrer, il vous faudra masque et passe sanitaire obligatoire. Et puis, évidemment, vous pourrez là aussi déambuler parmi la quarantaine d'exposants attendus, aussi bien pour des produits alimentaires, de l'artisanat ou des créateurs. Marché de Noël aussi à Château-Gontier ce week-end, samedi et dimanche, avec des calèches mises en place entre l'espace Saint-Fiacre et le centre-ville, puisque ça va être compliqué d'y accéder en voiture, avec dans le centre-ville... Là aussi, le Père Noël qui sera présent, bien sûr, c'est le marché de Noël. Des chants traditionnels de Noël à retrouver, mais aussi des percussions brésiliennes, ça ce sera le samedi, donc demain. Et dimanche, vous retrouverez là aussi en déambulation les allumés du bidon qui seront là pour l'ambiance. Il y aura aussi ce week-end, et d'ailleurs même dès ce soir, l'association des femmes afghanes qui est invitée au Théâtre du Tiroir. Ce sera à partir de 19h30 à Laval, avec au programme des témoignages, des poésies, du cinéma. C'est organisé avec les associations Amnesty International, Femmes Solidaires 53 et la Ligue des Droits de l'Homme. Et puis retrouvez aussi à Pré-en-Paille l'atelier PEP avec le 2-4, où vous pourrez fabriquer vos propres cadeaux de Noël, et oui, pourquoi pas, avec notamment la fabrication d'un sac à partir de cravates, de décorations de Noël en laine ou bien de jeux en bois, et ça se poursuit tout au long du mois. Ne manquez pas non plus une soirée conte à Copainville à Mayenne. Là, ce sera mardi prochain à 20h15 avec le collectif Komono qui présentera un spectacle, alors de conte mais aussi d'acrobatie, de spectacle. Et puis un concert au cœur des Halles proposé par les élèves du Conservatoire du Pays de Château-Gontier. Là, on s'avance un petit peu, hein. Ce sera jeudi prochain à partir de 18h et c'est gratuit. Ce n'est évidemment pas exhaustif, mais ça peut vous donner quelques petites idées pour ce week-end. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette émission, puisque ça y est, c'est la fin de la JT du local pour aujourd'hui. À 20h, ne manquez pas Passe-moi le thème, consacré ce soir aux chansons d'automne. Et oui, puisque nous sommes dans les derniers jours de la saison, c'est l'occasion. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à lundi.